Kant, Fondement de la métaphysique des mœurs. Deuxième section. Passage de la philosophie morale populaire à la métaphysique des mœurs. Si nous avons tiré jusqu'ici notre concept du devoir, de l'usage commun de la raison pratique, il n'en faut nullement conclure que nous l'ayons traité comme un concept empirique. Loin de là, si nous appliquons notre attention à l'expérience de la conduite des hommes, nous nous trouvons en présence de plaintes continuelles et, nous l'avouons nous-mêmes, légitimes sur ce fait qu'il n'y a point d'exemple certain que l'on puisse rapporter de l'intention d'agir par devoir que mainte action peut être réalisée conformément à ce que le devoir ordonne sans qu'il cesse pour cela d'être encore douteux qu'elle soit réalisée proprement par devoir, et qu'ainsi elle ait une valeur morale. Voilà pourquoi il y a eu en tout temps des philosophes qui ont absolument nié la réalité de cette intention dans les actions humaines, et qui ont tout attribué à l'amour-propre plus ou moins raffiné. Ils ne mettaient pas en doute, pour cela, la justesse du concept de moralité. Ils parlaient, au contraire, avec une sincère affliction de l'infirmité et de l'impureté de la nature humaine. Assez noble, il est vrai, suivant eux, pour faire sa règle d'une idée si digne de respect, mais, en même temps, trop faible pour la suivre. N'usant de la raison, qui devrait servir à lui donner sa loi, que pour prendre souci de l'intérêt des inclinations, soit de quelques-unes d'entre elles, soit, si l'on met les choses au mieux, de toutes, en les conciliant entre elles le mieux possible. En fait, il est absolument impossible d'établir par expérience, avec une entière certitude, un seul cas où la maxime d'une action, d'ailleurs conforme au devoir, est uniquement reposée sur des principes moraux et sur la représentation du devoir. Car il arrive parfois, sans doute, qu'avec le plus scrupuleux examen de nous-mêmes, nous ne trouvons absolument rien qui, en dehors du principe moral du devoir, ait pu être assez puissant pour nous pousser à telle ou telle bonne action et, à tel grand sacrifice. Mais de là, on ne peut nullement conclure avec certitude que réellement ce ne soit point une secrète impulsion de l'amour-propre qui, sous le simple mirage de cette idée, ait été la vraie cause déterminante de la volonté. C'est que nous nous flattons volontiers en nous attribuant faussement un principe de détermination plus noble. Mais en réalité, nous ne pouvons jamais, même par l'examen le plus rigoureux, pénétrer entièrement jusqu'au mobile secret. Or, quand il s'agit de valeurs morales, l'essentiel n'est point dans les actions que l'on voit, mais dans ces principes intérieurs des actions que l'on ne voit pas. On ne peut pas non plus rendre à ceux qui se rient de toute moralité, comme d'une chimère de l'imagination humaine qui s'exalte elle-même par sa présomption, de services plus conformes à leurs désirs que de leur accorder que les concepts du devoir, avec cette facilité de conviction paresseuse qui fait aisément admettre qu'il en est également ainsi de tous les autres concepts, doivent être dérivés uniquement de l'expérience. C'est, en effet, leur préparer un triomphe certain. Je veux bien, par amour de l'humanité, accorder que la plupart de nos actions soient conformes au devoir. Mais si l'on examine de plus près l'objet et la fin, on se heurte partout au cher moi, qui toujours finit par ressortir. C'est sur lui, non sur le strict commandement du devoir, qui le plus souvent exigerait l'abnégation de soi-même, que s'appuie le dessein dont elle résulte. Il n'est pas précisément nécessaire d'être un ennemi de la vertu. Il suffit d'être un observateur de sang-froid qui ne prend pas immédiatement pour le bien même le vif désir de voir le bien réalisé, pour qu'à certains moments, surtout si l'on avance en âge et si l'on a le jugement d'une part mûri par l'expérience, d'autre part aiguisé par l'observation, on doute que quelque véritable vertu se rencontre réellement dans le monde. Et alors, il n'y a rien pour nous préserver de la chute complète de nos idées du devoir, pour conserver dans l'âme un respect bien fondé de la loi qui le prescrit, si ce n'est la claire conviction que, lors même qu'il n'y aurait jamais eu d'action qui fût dérivée de ces sources pures, il ne s'agit néanmoins ici, en aucune façon, de savoir si ceci ou cela a lieu, mais que la raison commande par elle-même et indépendamment de tous les faits donnés ce qui doit avoir lieu, que par suite des actions dont le monde n'a peut-être jamais encore souffert le moindre exemple jusqu'aujourd'hui, dont la possibilité d'exécution pourrait être mise en doute par celui-là précisément qui fonde tout sur l'expérience, sont cependant ordonnées sans rémission par la raison. Que, par exemple, la pure loyauté dans l'amitié n'en est pas moins obligatoire pour tout homme, alors même qu'il se pourrait qu'il n'y eût jamais d'ami loyal jusqu'à présent, parce que ce devoir est impliqué, comme devoir en général, avant toute expérience, dans l'idée d'une raison qui détermine la volonté par des principes a priori. Si l'on ajoute qu'à moins de contester au concept de moralité toute vérité et toute relation à quelque objet sensible, on ne peut disconvenir que la loi morale ait une signification à ce point étendue qu'elle doive valoir non seulement pour des hommes, mais tous les êtres raisonnables en général, non pas seulement sous des conditions contingentes et avec des exceptions, mais avec une absolue nécessité. Il est clair qu'aucune expérience ne peut donner lieu de conclure même à la simple possibilité de telles lois apodictiques. Car, de quel droit pourrions-nous ériger en objet d'un respect sans bornes, comme une prescription universelle pour toute nature raisonnable, ce qui peut-être ne vaut que dans les conditions contingentes de l'humanité? Et comment des lois de la détermination de notre volonté devraient-elles être tenues pour des lois de la détermination de la volonté d'un être raisonnable en général, et à ce titre seulement pour des lois applicables aussi à notre volonté propre, si elles étaient simplement empiriques ou si elles ne tiraient pas leur origine complètement a priori d'une raison pure mais pratique? On ne pourrait non plus rendre un plus mauvais service à la moralité que de vouloir la faire dériver d'exemples. Car tout exemple qui m'en est proposé doit lui-même être jugé auparavant selon des principes de la moralité pour qu'on sache s'il est bien digne de servir d'exemple originel, c'est-à-dire de modèle. Mais il ne peut nullement fournir en tout premier lieu le concept de moralité. Même le saint de l'Évangile doit d'abord être comparé avec notre idéal de perfection morale avant qu'on le reconnaisse comme tel. Aussi dit-il de lui-même, « Pourquoi m'appelez-vous bon, moi, que vous voyez ? Nul n'est bon, le type du bien, que Dieu seul, que vous ne voyez pas. » Mais d'où possédons-nous le concept de Dieu comme souverain bien? Uniquement de l'idée que la raison trace a priori de la perfection morale et qu'elle lie indissolublement au concept d'une libre volonté. En matière morale, l'imitation n'a aucune place. Des exemples ne servent qu'à encourager, c'est-à-dire qu'ils mettent hors de doute la possibilité d'exécuter ce que la loi ordonne, Ils font tomber sous l'intuition ce que la règle pratique exprime d'une manière plus générale. Mais ils ne peuvent jamais donner le droit de mettre de côté leur véritable original, qui réside dans la raison, et de se régler sur eux. Si donc il n'y a pas de vrai principe suprême de la moralité, qui ne doivent s'appuyer uniquement sur une raison pure, indépendamment de toute expérience, je crois qu'il n'est même pas nécessaire de demander s'il est bon d'exposer ces concepts sous forme universelle, in abstracto, tels qu'ils existent a priori, avec les principes qui s'y rattachent. Supposez du moins que la connaissance proprement dite doive se distinguer de la connaissance commune et prendre le titre de philosophique. Mais de nos jours, cette question pourrait bien être nécessaire, car si l'on recueillait les suffrages pour savoir laquelle doit être préférée, ou bien d'une connaissance rationnelle, pure, séparée de tout élément empirique, d'une métaphysique des mœurs par conséquent, ou bien d'une philosophie pratique populaire, on devine bien vite de quel côté pencherait la balance. Il est, sans contredit, tout à fait louable de descendre aussi au concept populaire lorsqu'on a réussi d'abord à s'élever, et de façon à satisfaire pleinement l'esprit jusqu'au principe de la raison pure. Procéder ainsi, c'est fonder tout d'abord la doctrine des mœurs sur une métaphysique, et ensuite celle-ci, fermement établie, la rendre accessible par vulgarisation. Mais il est tout à fait absurde de vouloir condescendre à cette accommodation dès les premières recherches, dont dépend toute l'exactitude des principes. Ce n'est pas seulement que ce procédé ne saurait jamais prétendre au mérite extrêmement rare d'une véritable vulgarisation philosophique, car il n'y a vraiment rien de difficile à se faire comprendre du commun des hommes quand pour cela on renonce à toute profondeur de pensée. Mais il en résulte alors une fastidieuse mixture d'observations entassées pêle-mêle et de principes d'une raison à moitié raisonnante. Les cerveaux vides s'en repaissent parce qu'il y a là, malgré tout, quelque chose d'utile pour le bavardage quotidien. Mais les esprits pénétrants n'y trouvent que confusion, et dans leur désappointement, ils ne peuvent, sans savoir à quoi se prendre, qu'en détourner les yeux. Cependant, s'il est des philosophes qui ne soient pas dupes de trompe-l'œil, ils trouvent un accueil peu favorable quand ils détournent pour un temps de la prétendue vulgarisation, afin de conquérir le droit de vulgariser, une fois seulement, qu'ils seront arrivés à des vues définies. Que l'on examine seulement les essais sur la moralité composés dans ce goût favori, on trouvera tantôt la destination particulière de la nature humaine, mais de temps à autre aussi l'idée d'une nature raisonnable en général. Tantôt la perfection, tantôt le bonheur, ici le sentiment moral, là la crainte de Dieu, un peu de ceci, mais un peu de cela également, le tout singulièrement mêlé. Cependant, on ne s'avise pas de demander si c'est bien dans la connaissance de la nature humaine que nous ne pouvons pourtant tenir que de l'expérience qu'il faut chercher les principes de la moralité. Et du moment qu'il n'en est pas ainsi, du moment que ces principes sont entièrement a priori, indépendants de toute matière empirique, et ne doivent pouvoir se trouver que dans les purs concepts de la raison, et nulle part ailleurs, pas même pour la moindre part, on n'a pas cependant l'idée de mettre résolument tout à fait à part cette recherche conçue comme philosophie pure, pratique, ou, si l'on ose se servir d'un nom si décrié, comme métaphysique des mœurs, de la porter pour elle-même à sa pleine perfection et de demander au public qui souhaite la vulgarisation de prendre patience jusqu'à la fin de cette entreprise. Note de Kant. On peut, si l'on veut, de même que l'on distingue la mathématique pure de la mathématique appliquée, la logique pure de la logique appliquée, distinguer aussi la philosophie pure des mœurs, métaphysique, de la philosophie des mœurs appliquées, c'est-à-dire appliquées à la nature humaine. Grâce à cette dénomination, on sera tout aussitôt averti que les principes moraux ne doivent pas être fondés sur les propriétés de la nature humaine, mais qu'ils doivent exister pour eux-mêmes, a priori, et que c'est de tels principes que doivent pouvoir être dérivés des règles pratiques, valables pour toute nature raisonnable, par suite aussi pour la nature humaine. Fin de la note. Or, une telle métaphysique des mœurs, complètement isolée, qui n'est mélangée ni d'anthropologie, ni de théologie, ni de physique ou d'hyperphysique, encore moins de qualités occultes, qu'on pourrait appeler hypophysiques, n'est pas seulement un indispensable substrat de toute connaissance théorique des devoirs définis avec certitude. Elle est encore un desideratum de la plus grande importance pour l'accomplissement effectif de leurs prescriptions. Car la représentation du devoir et en général de la loi morale, quand elle est pure et qu'elle n'est mélangée d'aucune addition étrangère de stimulants sensibles, a sur le cœur humain, par les voies de la seule raison, qui s'aperçoit alors qu'elle peut être pratique par elle-même, une influence beaucoup plus puissante que celle de tous les autres mobiles que l'on peut évoquer du champ de l'expérience, au point que, dans la conscience de sa dignité, elle méprise ces mobiles et que peu à peu, elle est capable de leur commander. Au lieu qu'une doctrine morale bâtarde, qui se compose de mobiles fournis par des sentiments et des inclinations, en même temps que de concepts de la raison, rend nécessairement l'âme hésitante entre des motifs d'action qui ne se laissent ramener à aucun principe, qui ne peuvent conduire au bien que tout à fait par hasard, et qui souvent aussi peuvent conduire au mal. Note de Kant. J'ai une lettre de feu l'excellent Sulzer, où il me demande quelle peut donc être la cause qui fait que les doctrines de la vertu, si propres qu'elles soient à convaincre la raison, aient cependant si peu d'efficacité. J'ajournai ma réponse afin de me mettre en mesure de la donner complète. Mais il n'y a pas d'autre raison à donner que celle-ci, à savoir que ceux-là même qui enseignent ces doctrines n'ont pas ramené leur concept à l'état de pureté, et qu'en voulant trop bien faire, par ceux-là même qu'ils poursuivent dans tous les sens des motifs qui poussent au bien moral, pour rendre le remède tout à fait énergique, ils le gâtent. Car l'observation la plus commune montre que si l'on présente un acte de probité, détaché de toute vue d'intérêt, quel qu'il soit, en ce monde ou dans l'autre, accompli d'une âme ferme, même au milieu des plus grandes tentations, que fait naître le besoin ou la séduction de certains avantages, il laisse, bien loin derrière lui, et éclipse tout acte analogue qui, dans la plus petite mesure seulement, aurait été affecté par un mobile étranger, qui lui élève l'âme et qui l'excite le désir d'en pouvoir faire autant. Même des enfants d'âge moyen ressentent cette impression et l'on ne devrait jamais non plus leur présenter les devoirs autrement. Fin de la note. Par ce qui précède, il est évident que tous les concepts moraux ont leur siège et leur origine complètement a priori dans la raison humaine la plus commune, aussi bien que dans celle qui est au plus haut degré spéculative, qu'ils ne peuvent pas être abstraits d'une connaissance empirique et par suite simplement contingente, que c'est cette pureté d'origine qui les rend précisément dignes comme ils le sont de nous servir de principes pratiques suprêmes. Que tout ce qu'on ajoute d'empirique est d'autant d'enlever à leur véritable influence et à la valeur absolue des actions. Que ce n'est pas seulement une exigence de la plus haute rigueur au point de vue théorique quand il s'agit simplement de spéculation, mais qu'il est encore de la plus grande importance pratique de puiser ses concepts et ses lois à la source de la raison pure, de les présenter purs et sans mélange, qui plus est, de déterminer l'étendue de toute cette connaissance rationnelle pratique et cependant pure, c'est-à-dire la puissance entière de la raison pure pratique. De s'abstenir ici, toutefois, quoique la philosophie spéculative le permette et qu'elle le trouve même parfois nécessaire, de faire dépendre les principes de la nature particulière de la raison humaine. Mais, puisque des lois morales doivent valoir pour tout être raisonnable en général, de les déduire du concept universel d'un être raisonnable en général et ainsi d'exposer toute la morale qui, dans son application aux hommes, a besoin de l'anthropologie, d'abord indépendamment de cette dernière science, comme philosophie pure, c'est-à-dire comme métaphysique, de l'exposer, dis-je, ainsi complètement, ce qui est aisé à faire dans ce genre de connaissances tout à fait séparées. En ayant bien conscience que si l'on n'est pas en possession de cette métaphysique, c'est peine inutile. Je ne veux pas dire de déterminer exactement pour le jugement spéculatif l'élément moral du devoir dans tout ce qui est conforme au devoir, mais qu'il est même impossible, en ce qui concerne simplement l'usage commun et pratique, et particulièrement l'instruction morale, de fonder la moralité sur ces vrais principes, de produire par là des dispositions morales pures, et de les inculquer dans les âmes pour le plus grand bien du monde. Or, afin d'aller dans ce travail, en nous avançant par une gradation naturelle, non pas simplement du jugement moral commun, qui est ici fort digne d'estime, au jugement philosophique, comme cela a été fait à un autre moment, mais d'une philosophie populaire, qui ne va pas au-delà de ce qu'elle peut atteindre à tâtons au moyen d'exemples, jusqu'à la métaphysique, qui ne se laisse arrêter par rien d'empirique, et qui, devant mesurer tout l'ensemble de la connaissance rationnelle de cette espèce, s'élève en tout cas jusqu'aux idées, là où les exemples mêmes nous abandonnent. Il nous faut suivre et exposer clairement la puissance pratique de la raison, depuis ses règles universelles de détermination, jusqu'au point où le concept du devoir en découle. Toute chose dans la nature agit d'après des lois. Il n'y a qu'un être raisonnable qui ait la faculté d'agir d'après la représentation des lois, c'est-à-dire d'après les principes, en d'autres termes, qui est une volonté. Puisque, pour dériver les actions des lois, la raison est requise. La volonté n'est rien d'autre qu'une raison pratique. Si la raison chez un être détermine infailliblement la volonté, les actions de cet être qui sont reconnues nécessaires, objectivement, sont aussi reconnues telles subjectivement. C'est-à-dire qu'alors, la volonté est une faculté de choisir cela seulement que la raison, indépendamment de l'inclination, reconnaît comme pratiquement nécessaire, c'est-à-dire comme bon. Mais si la raison ne détermine pas suffisamment par elle seule la volonté, si celle-ci est soumise encore à des conditions subjectives, à de certains mobiles, qui ne concordent pas toujours avec les conditions objectives, en un mot, si la volonté n'est pas encore en soi pleinement conforme à la raison, comme cela arrive chez les hommes, alors les actions qui sont reconnues nécessaires objectivement sont subjectivement contingentes, et la détermination d'une telle volonté, en conformité avec des lois objectives, est une contrainte, c'est-à-dire que le rapport des lois objectives à une volonté qui n'est pas complètement bonne est représenté comme la détermination de la volonté d'un être raisonnable par des principes de la raison sans doute, mais par des principes auxquels cette volonté, selon sa nature, n'est pas nécessairement docile. La représentation d'un principe objectif, en tant que ce principe est contraignant pour une volonté, s'appelle un commandement de la raison, et la formule du commandement s'appelle un impératif. Tous les impératifs sont exprimés par le verbe « devoir », « sollen », et ils indiquent par là le rapport d'une loi objective de la raison à une volonté qui, selon sa constitution subjective, n'est pas nécessairement déterminée par cette loi, une contrainte. Ils disent qu'il serait bon de faire telle chose ou de s'en abstenir, mais ils le disent à une volonté qui ne fait pas toujours une chose parce qu'il lui est représenté qu'elle est bonne à faire. Or, cela est pratiquement bon qui détermine la volonté au moyen des représentations de la raison. Par conséquent, non pas en vertu de causes subjectives, mais objectivement, c'est-à-dire en vertu de principes qui sont valables pour tout être raisonnable en tant que tel. Ce bien pratique est distinct de l'agréable, c'est-à-dire de ce qui a de l'influence sur la volonté uniquement au moyen de la sensation, en vertu de causes purement subjectives, valable seulement pour la sensibilité de tel ou tel, et non comme principe de la raison, valable pour tout le monde. Une volonté parfaitement bonne serait donc tout aussi bien sous l'empire de lois objectives, lois du bien, mais elle ne pourrait, pour cela, être représentée comme contrainte à des actions conformes à la loi, parce que, d'elle-même, selon sa constitution subjective, elle ne peut être déterminée que par la représentation du bien. Voilà pourquoi il n'y a pas d'impératif valable pour la volonté divine, et en général pour une volonté sainte. Le verbe « devoir » est un terme qui n'est pas ici à sa place, parce que déjà de lui-même, le vouloir est nécessairement en accord avec la loi. Voilà pourquoi les impératifs sont seulement des formules qui expriment le rapport de lois objectives du vouloir en général à l'imperfection subjective de la volonté de tel ou tel être raisonnable, par exemple de la volonté humaine. Or, tous les impératifs commandent ou hypothétiquement ou catégoriquement. Les impératifs hypothétiques représentent la nécessité pratique d'une action possible, considérée comme moyen d'arriver à quelque autre chose que l'on veut, ou du moins qu'il est possible qu'on veuille. L'impératif catégorique serait celui qui représenterait une action comme nécessaire pour elle-même et sans rapport à un autre but, comme nécessaire objectivement. Puisque toute loi pratique représente une action possible comme bonne et par conséquent comme nécessaire pour un sujet capable d'être déterminé pratiquement par la raison. Tous les impératifs sont des formules par lesquelles est déterminée l'action qui, selon le principe d'une volonté bonne, en quelque façon, est nécessaire. Or, si l'action n'est bonne que comme moyen pour quelque autre chose, l'impératif est hypothétique. Si elle est représentée comme bonne en soi, par suite, comme étant nécessairement dans une volonté qui est en soi conforme à la raison, le principe qui la détermine, alors l'impératif est catégorique. L'impératif énonce donc quelle est l'action qui, possible par moi, serait bonne. Et il représente la règle pratique en rapport avec une volonté qui n'accomplit pas sur le champ une action parce qu'elle est bonne, soit que le sujet ne sache pas toujours qu'elle est bonne, soit que, le sachant, il adopte néanmoins des maximes contraires au principe objectif d'une raison pratique. L'impératif hypothétique exprime donc seulement que l'action est bonne en vue de quelque fin, possible ou réelle. Dans le premier cas, il est un principe problématiquement pratique. Dans le second, un principe assertoriquement pratique. L'impératif catégorique, qui déclare l'action objectivement nécessaire en elle-même, sans rapport à un but quelconque, c'est-à-dire sans quelque autre fin, a la valeur d'un principe apodictiquement pratique. On peut concevoir que tout ce qui n'est possible que par les forces de quelque être raisonnable est aussi un but possible pour quelque volonté. Et de là vient que les principes de l'action, en tant que cette action est représentée comme nécessaire pour atteindre à quelque fin possible susceptible d'être réalisée par là, sont infiniment nombreux. Toutes les sciences ont une partie pratique, consistant en des problèmes qui supposent que quelque fin est possible pour nous, et en des impératifs qui énoncent comment cette fin peut être atteinte. Ces impératifs peuvent donc être appelés en général des impératifs de l'habileté. Que la fin soit raisonnable et bonne, ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit ici, mais seulement de ce qu'il faut faire pour l'atteindre. Les prescriptions que doit suivre le médecin pour guérir radicalement son homme, celles que doit suivre un empoisonneur pour le tuer à coup sûr, sont d'égale valeur, en tant qu'elles leur servent les unes et les autres à accomplir parfaitement leur dessein. Comme dans la première jeunesse, on ne sait pas quelle fin pourrait s'offrir à nous dans le cours de la vie, les parents cherchent principalement à faire apprendre à leurs enfants une foule de choses diverses. Ils pourvoient à l'habileté dans l'emploi des moyens en vue de toutes sortes de fins à volonté, incapables qu'ils sont de décider pour aucune de ces fins, qu'elles ne puissent pas d'aventure devenir réellement plus tard une visée de leur enfant, tandis qu'il est possible qu'elles le deviennent un jour. Et cette préoccupation est si grande qu'ils négligent communément de leur former et de leur rectifier le jugement sur la valeur des choses qu'ils pourraient bien avoir à se proposer pour fin. Il y a cependant une fin que l'on peut supposer réelle chez tous les êtres raisonnables, en tant que des impératifs s'appliquent à ces êtres considérés comme dépendants. Par conséquent, un but qui n'est pas pour eux une simple possibilité, mais dont on peut certainement admettre que tous se le proposent effectivement en vertu d'une nécessité naturelle, et ce but est le bonheur. L'impératif hypothétique, qui représente la nécessité pratique de l'action comme moyen d'arriver au bonheur, est assez rhétorique. On ne peut pas le présenter simplement comme indispensable à la réalisation d'une fin incertaine, seulement possible, mais d'une fin que l'on peut supposer avec certitude et a priori chez tous les hommes, parce qu'elle fait partie de leur essence. Or, on peut donner le nom de prudence, en prenant ce mot dans son sens le plus étroit, à l'habileté dans le choix des moyens qui nous conduisent à notre plus grand bien-être. Aussi, l'impératif qui se rapporte au choix des moyens en vue de notre bonheur propre, c'est-à-dire la prescription de la prudence, n'est toujours qu'hypothétique. L'action est commandée non pas absolument, mais seulement comme moyen pour un autre but. Note de Kant. Le terme de prudence est pris en un double sens. Selon le premier sens, il peut porter le nom de prudence par rapport au monde. Selon le second, celui de prudence privée. La première est l'habileté d'un homme à agir sur ses semblables de façon à les employer à ses fins. La seconde est la sagacité qui le rend capable de faire converger toutes ses fins vers son avantage à lui et vers un avantage durable. Cette dernière est proprement celle à laquelle se réduit la valeur de la première, et de celui qui est prudent de la première façon sans l'être de la seconde, on pourrait dire plus justement qu'il est ingénieux et rusé, mais en somme imprudent. Fin de la note. Enfin, il y a un impératif qui, sans poser en principe et comme condition quelque autre but à atteindre par une certaine conduite, commande immédiatement cette conduite. Cet impératif est catégorique. Il concerne non la matière de l'action, ni ce qui doit en résulter, mais la forme et le principe dont elle résulte elle-même. Et ce qu'il y a en elle d'essentiellement bon consiste dans l'intention, quelles que soient les conséquences. Cet impératif peut être nommé l'impératif de la moralité. L'acte de vouloir, selon ces trois sortes de principes, est encore clairement spécifié par la différence qu'il y a dans le genre de contrainte qu'ils exercent sur la volonté. Or, pour rendre cette différence sensible, on ne pourrait, je crois, les désigner dans leur ordre d'une façon plus appropriée qu'en disant « ce sont ou des règles de l'habileté, ou des conseils de la prudence, ou des commandements des lois de la moralité. » Car il n'y a que la loi qui entraîne avec soi le concept d'une nécessité inconditionnée, véritablement objective, par suite d'une nécessité universellement valable. Et les commandements sont des lois auxquelles il faut obéir, c'est-à-dire se conformer même à l'encontre de l'inclination. L'énonciation de conseil implique, il est vrai, une nécessité. Mais une nécessité qui ne peut valoir que sous une condition objective contingente, selon que tel ou tel homme fait de ceci ou de cela une part de son bonheur. Au contraire, l'impératif catégorique n'est limité par aucune condition. Et comme il est absolument, quoique pratiquement nécessaire, il peut être très proprement nommé un commandement. On pourrait encore appeler les impératifs du premier genre techniques, se rapportant à l'art, ceux du second genre pragmatiques, se rapportant au bien-être, ceux du troisième genre moraux, se rapportant à la libre conduite en général, c'est-à-dire aux mœurs. Note de Kant. Il me semble que le sens propre du mot pragmatique peut être ainsi très exactement déterminé. En effet, on appelle pragmatique les sanctions qui ne se déroulent pas proprement du droit des États comme loi nécessaire, mais de la précaution prise pour le bien-être général. Une histoire est composée pragmatiquement quand elle rend prudent, c'est-à-dire quand elle apprend au monde d'aujourd'hui comment il peut prendre soin de ses intérêts mieux ou du moins tout aussi bien que le monde d'autrefois. Fin de la note. Maintenant, cette question se pose. Comment tous ces impératifs sont-ils possibles? Cette question tend à savoir comment on peut se représenter non pas l'accomplissement de l'action que l'impératif ordonne, mais simplement la contrainte de la volonté que l'impératif énonce dans la tâche à remplir. Comment un impératif de l'habileté est possible? C'est ce qui n'a certes pas besoin d'explication particulière. Qui veut la fin, veut aussi, en tant que la raison a sur ses actions une influence décisive, les moyens d'y arriver, qui sont indispensablement nécessaires et qui sont en son pouvoir. Cette proposition est, en ce qui concerne le vouloir, analytique, car l'acte de vouloir un objet, comme mon effet, suppose déjà ma causalité, comme causalité d'une cause agissante, c'est-à-dire l'usage des moyens. Et l'impératif déduit le concept d'action nécessaire à cette fin du seul concept de la volonté de cette fin, sans doute pour déterminer les moyens en vue d'un but qu'on s'est proposé. Des propositions synthétiques sont requises, mais elles concernent le principe de réalisation, non de l'acte de la volonté, mais de l'objet. Que, pour diviser, d'après un principe certain, une ligne droite en deux parties égales, il me faille des extrémités de cette droite décrire deux arcs de cercle. C'est sans doute ce que la mathématique nous enseigne uniquement au moyen de propositions synthétiques. Mais que sachant que cette action seule permet à l'effet projeté de se produire, si je veux pleinement l'effet, je veuille aussi l'action qu'il requiert, c'est là une proposition analytique. Car me représenter une chose comme un effet que je peux produire d'une certaine manière, et me représenter moi-même à l'égard de cet effet comme agissant de cette même façon, c'est tout un. Les impératifs de la prudence, si seulement il était aussi facile de donner un concept déterminé du bonheur, seraient tout à fait de la même nature que ceux de l'habileté. Ils seraient tout aussi bien analytiques. Car ici, comme là, l'on pourrait dire que qui veut la fin veut aussi, nécessairement selon la raison, les moyens indispensables d'y arriver qui sont en son pouvoir. Mais par malheur, le concept du bonheur est un concept si indéterminé que malgré le désir qu'a tout homme d'arriver à être heureux, personne ne peut jamais dire en termes précis et cohérents ce que véritablement il désire et il veut. La raison en est que tous les éléments qui font partie du concept du bonheur sont, dans leur ensemble, empiriques, c'est-à-dire qu'ils doivent être empruntés à l'expérience, et que cependant, pour l'idée du bonheur, un tout absolu, un maximum de bien-être dans mon état présent et dans toute ma condition future, est nécessaire. Or, il est impossible qu'un être fini, si perspicace et en même temps si puissant qu'on le suppose, se fasse un concept déterminé de ce qu'il veut ici véritablement. Veut-il la richesse? Que de soucis, que d'envie, que de pièges ne peut-il pas, par là, attirer sur sa tête? Veut-il beaucoup de connaissances et de lumière? Peut-être cela ne fera-t-il que lui donner un regard plus pénétrant pour lui représenter d'une manière d'autant plus terrible les maux qui jusqu'à présent se dérobent à sa vue et qui sont pourtant inévitables. Ou bien que charger de plus de besoins encore ses désirs qu'il a déjà bien assez de peine à satisfaire. Veut-il une longue vie ? Qui lui répond que ce ne serait pas une longue souffrance ? Veut-il du moins la santé ? Que de fois l'indisposition du corps a détourné d'excès ou aurait fait tomber une santé parfaite, etc. Bref, il est incapable de déterminer avec une entière certitude d'après quelques principes ce qui le rendrait véritablement heureux. Pour cela, il lui faudrait l'omniscience. On ne peut donc pas agir pour être heureux d'après des principes déterminés, mais seulement d'après des conseils empiriques qui recommandent, par exemple, un régime sévère, l'économie, la politesse, la réserve, etc. Toutes choses qui, selon les enseignements de l'expérience, contribuent en thèse générale, pour la plus grande part, au bien-être. Il suit de là que les impératifs de la prudence, à parler exactement, ne peuvent commander en rien, c'est-à-dire représenter des actions d'une manière objective comme pratiquement nécessaire, qu'il faut les tenir plutôt pour des conseils, consilia, que pour des commandements, precepta, de la raison. Le problème qui consiste à déterminer d'une façon sûre et générale quelle action peut favoriser le bonheur d'un être raisonnable est un problème tout à fait insoluble. Il n'y a donc pas à cet égard d'impératif qui puisse commander, au sens strict du mot, de faire ce qui rend heureux, parce que le bonheur est un idéal, non de la raison mais de l'imagination, fondé uniquement sur des principes empiriques dont on attendrait vainement qu'il puisse déterminer une action par laquelle serait atteinte la totalité d'une série de conséquences en réalité infinie. Cet impératif de la prudence serait en tout cas, si l'on admet que les moyens d'arriver au bonheur se laissent fixer avec certitude, une proposition pratique analytique, car il ne se distingue de l'impératif de l'habileté que sur un point. C'est que pour ce dernier, la fin est simplement possible, tandis que pour celui-là, elle est donnée en fait. Mais comme tous deux commandent simplement les moyens en vue de ce qu'on est supposé vouloir comme fin, l'impératif qui ordonne de vouloir les moyens à celui qui veut la fin est dans les deux cas analytique. Sur la possibilité d'un impératif de ce genre, il n'y a donc pas l'ombre d'une difficulté.